Bonjour Stéphane Pageot, auteur de Nantes Histoire d'eau paru aux éditions d'Orbestier, Philippe Boidron, consultant maritime et fluvial, sont les invités de La Perle à rebours, réalisé avec les complicités de Didier Houde, Laurent Messager et Yann Le Taïron.
Je ne sais pas si c'est une idée de l'auteur ou de l'éditeur de rendre hommage à Léonard de Vinci. C'est notre expert qui a remarqué qu'une des photographies, il fallait la regarder au travers d'un miroir.
Alors,
expliquons, Philippe.
L'œil de Philippe Boidron aussi.
Oui. Non, mais ça, c'est un petit clin d'œil. Comme le dit très justement Stéphane, quand on fait un livre, il y a toujours soit une coquille d'orthographe ou autre chose, ou une photo mal légendée. Enfin, il y a
toujours.
Un livre sans erreur, ça n'existe pas. Et le jour où on le regarde ensemble, je dis « Ah, tiens, je ne connaissais pas cette photo, je cherchais, je regarde la légende. » Et en fait, l'écluse Saint-Félix a été tirée à l'envers. Donc, mais c'est très poétique, ça fait partie de, comme on est dans une ville de surréalistes et de poètes, donc de tirer des photos à l'envers, c'est très, très amusant.
On aura même pu frimer en disant que c'était un daguerreotype, parce que daguerreotype est à l'envers.
L'explication, c'est parce que les photos, on les retravaille, on les retouche, on les recadre.
L'explication, c'est moi qui me suis remêlé les pinceaux, là c'est le pont de la Vendée. Hein.
Ouais, ouais.
Je me suis remêlé les pinceaux, j'étais vraiment persuadé d'être du côté de Lue, là,
ouais.
Et de voir le pont là,
ouais.
Et que l'église Saint-Félix, là, mais c'est pas ça.
Non. On est à l'envers, parce que cette estacade, c'est l'estacade côté Loire, et elle devrait être là, quoi. Voilà.
Mais là, c'est très,
ça ne change rien à la qualité. Ouais. De l'image, mais c'est que bon, voilà, faudrait juste se la remettre dans le bon sens un jour.
Je vous rassure, il y a seulement Philippe qui m'a fait sourire.
Le reste est quand même de haute qualité, puisque ouais. On n'a pas vu trop d'autres coquilles. Les lecteurs pourront en faire part, mais non, autrement, c'est. Alors, ça a un gros intérêt pour à la fois les passionnés, bien sûr, d'histoire maritime et fluviale à Nantes, d'histoire d'architecture et d'histoire de la photographie, parce que je suis tout ça et ça m'intéresse, mais. Au-delà de ça, je pense que ça peut nourrir vraiment des réflexions en termes d'architecture, d'urbanisme, d'histoire des ouvrages d'art. Il y a plein de gens qui ne savent pas que là, sous leurs pieds, il y a des très 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 beaux ouvrages d'art. Des ponts, des quais, des écluses ont été enterrées et c'était quand même de la manufacture de haute qualité. On parlait du pont qui s'est écroulé et qui a été restauré par un chantier de pont mobile pendant un moment, par le photographe là, de tout à l'heure, par Victor Girard. C'est les troupes du 9e régiment de génie d'Angers certainement qui sont intervenues, qui en sont devenues des spécialistes parce qu'ils ont fait comme ça plusieurs chantiers sur des crues, sur des ponts écroulés, des ponts chantiers, des ponts de travaux. Et il y a une spécialité, on va dire régionale, puisque là c'est Angers, du 9e régiment de génie qui est venu souvent faire des ponts mobiles, des ponts de chantier, parce qu'il y en a eu d'autres, des travaux sur des ponts et des choses comme ça. Toutes ces images ouvrent quand même un œil aux spécialistes et aux non-spécialistes sur ce que c'est que d'aménager une ville d'eau pendant 2000 ans, c'est-à-dire entre trois pieux de bois au Moyen-Âge et des beaux ouvrages d'art et ensuite des comblements, une démolition, des bombardements, des reconstructions, ça peut ensuite interpeller, je l'espère, les architectes, urbanistes et citoyens de Nantes actuellement sur le devenir du fleuve dans Nantes et comment pratiquement on le vit et on le fait, quoi.
On va en parler tout à l'heure, mais juste pour poursuivre, alors quand on parle de Nantes, histoire d'eau. Donc vous évoquez, Stéphane, l'Erdre, la Loire, mais le sens aussi existe. C'est trop petit.
Non, c'est assez simple. En fait, tous mes bouquins, alors c'est pour ça que des fois on a l'impression qu'il y a des grosses lacunes.
C'est parce que une lacune, hein,
tous les bouquins sont basés sur l'icono que j'ai trouvé.
Non, ça n'a pas de sens.
C'est aussi simple que ça.
Et pour moi, ça en a.
Évidemment, il n'y a pas la sève non plus. Mais j'avais pas de. Enfin, en tout cas, dans nos choix photographiques, parce qu'alors, il y a un choix photographique. Avant quand même, avant d'écrire. Voilà, j'ai pas le sens, ni la Chésine aussi. La Chésine, j'aurais bien aimé, parce que c'est une belle histoire, la Chésine à Nantes. Voilà, c'est basé vraiment sur les images. C'est pas un livre d'histoire, je le dis souvent, hein. C'est un livre de petites histoires, basé sur la photo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Faut pas le prendre comme un livre d'école, c'est plus une promenade vraiment photographique au départ. Et après, on peut s'arrêter, on peut butiner, en fait, chaque légende a un début et une fin. On n'est pas obligé de le lire dans le bon sens. On peut lire dans les deux sens. Même par le milieu, il n'y a pas. Voilà. C'est vraiment une balade. On butine, quoi. Comme
le sens qui prend sa source.
Hein. Voilà. Alors, le sens qui prend sa source à.
Là, je une colle du côté d'Orvaux.
Vigneux de Bretagne, me semble-t-il.
Vigneux aussi, comme ça.
Oui, oui.
Ah, c'est du côté des châteaux d'eau et des zones humides.
Voilà.
Le sens, voilà. Ben, merci, en tout cas, de m'avoir appris quelque chose.
Je ne pensais pas si grand que ça.
Manger un baie des gens, ça, on sait.
On va relier maintenant avec le Nantes d'aujourd'hui. Mais déjà, le regard du consultant maritime et fluvial, sur donc le Nantes de cette époque. Vous considérez que l'aménagement était bien conçu?
Ça va être un peu l'éternel vieux débat sur l'histoire qu'on peut pas refaire, c'est évident. Mais quand on regarde le livre de Stéphane et ses photos, on voit la qualité de travail, je dirais quasiment à la Vauban, de ces maçonneries faites à la main, de tous ces ouvrages qui ont été jusqu'à la décision du comblement et ensuite les bombardements. Ces deux événements ont quand même totalement et radicalement changé la physionomie de la ville et du fleuve et du rapport des Nantais au fleuve à tous les sens du terme. C'est la seule ville de France, et peut-être, je ne sais pas si dans le monde c'est comme ça, mais où on a mis l'Erdre à la place de la Loire. C'est quand même assez étonnant. On a déplacé un fleuve, déplacé une rivière, fait des tunnels, des canaux, des comblements, etc. Et on a enfoui des écluses, une écluse, des quais, qui étaient de très très haute qualité au niveau architecture, manufacture, etc. Bon, voilà, c'est fait. Maintenant, les quais qui restent sur le peu de quais qui restent encore en état sur la Loire à Nantes ne sont absolument pas ni sauvés ni mis en valeur. Il en reste des petites portions, et d'un point de vue purement là, patrimonial, ce serait quand même intéressant de s'y intéresser. Bon, voilà, il y a un travail à faire là-dessus. Après, ce qui intéresse peut-être plus nos contemporains maintenant, à la suite du grand débat sur la Loire et nous, et de ces choses-là qui vont commencer à bouger, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce fleuve, ou qu'est-ce qu'on fait de notre rapport au fleuve, quelle utilité il a, quels sont les nouveaux enjeux environnementaux, de loisirs, d'économie. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles l'ensemble des Nantais ont commencé un peu à se prononcer à travers des débats.
C'est pas terminé.
Pour moi, c'est jamais terminé. Mais non, il y a eu 30 engagements qui ont été lancés par Nantes Métropole, qui a, je dirais, la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage sur ces choses-là. Mais ça n'empêche pas les citoyens de continuer à avoir des idées et des projets et d'avancer sur ces sujets-là. Nous, à l'Union Maritime et Fluviale, qui est un groupement professionnel d'armateurs et de filières du maritime et fluvial, on essaie de développer justement le rapport le plus direct au fleuve, de l'économie et des citoyens. Il y a encore des choses à faire de façon à ce que le fleuve ne soit pas soit un égout, soit un déversoir, soit juste un beau miroir d'eau. Il faut qu'il ait des fonctions, utiles à tous.
Comme par exemple ?
Comme par exemple faire du transport de passagers. Nantes, c'est une ville assez étonnante parce qu'on a démoli les tramways. À la fin de la guerre, on a comblé toutes les voies d'eau, enfin majoritairement les voies d'eau dans le cœur de ville. On a enlevé les tramways en 58, on a enlevé le pont transbordeur en 58, on a enlevé les roquios dans les mêmes années. Et là, on a remis le tramway dans les années 80, remis les roquios, les transports de passagers, les navibus, qu'on appelle maintenant les navibus, en 2005. On parle de remettre il y a des projets de remettre le pont transbordeur. Donc on voit que faire et défaire, ça fait peut-être partie des gènes nantais ou humains d'ailleurs. Je ne sais pas s'il n'y a que les Nantais qui font ça. Mais bon, c'est intéressant de voir qu'on construit, qu'on reconstruit. Donc, quand on voit quelque chose qui est en train de se démolir actuellement, il faut se dire, oh, tiens, on reviendra dans 30 ans pour voir si ça ne reviendra pas. Enfin, ça, c'est le côté anecdotique. Ceci dit, ça prouve que le fleuve peut encore avoir une fonction simple, qui est de, puisque avec la poussée d'Archimède, on économise un peu d'énergie, de pouvoir transporter des gens, transporter des matériaux et venir au cœur des villes. Comme toutes les grandes villes historiques sont fondées, en France en tout cas, mais même dans le monde, au cœur des fleuves pour des raisons historiques d'eau douce et d'énergie. Il y a de l'eau au cœur de la ville et elle était encore plus présente autrefois. Les ouvrages de Stéphane le montrent bien des fois. Elle était encore plus présente, même Place Royale, il y avait de l'eau. Hein. C'était des fortifications avec de l'eau tout autour. Donc l'eau, elle est vraiment dans la ville. Elle est pour l'instant, du point de vue patrimonial et historique. L'économie portuaire du port se va de plus en plus vers l'aval. C'est maintenant le grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire avec une beaucoup plus grosse importance sur Saint-Nazaire puisque le port va faire cette année, 24-25 millions de tonnes de marchandises et il n'y en aura que 2 à 3 millions faites à Nantes-Nantes, le port de Nantes, quoi. Tout le reste est majoritairement fait sur Saint-Nazaire. Donc on a le droit de se poser des questions sur l'avenir et sur l'utilité, l'utilisation du fleuve Loire et Erdre et pourquoi pas Gèvres et autres dans la ville.
Se rebaigner dans la Loire, ce sera envisageable.
Au niveau de la pollution, dont t'as compte.
Une fois qu'il n'y aura plus de piscine. Mon père a pu nager dans une piscine sur la Loire, mais c'était une piscine sans. C'était un espèce de bac avec un grillage, quoi, pour pas qu'on perde les gamins quand même.
Je crois que vous connaissez aussi les gens se baignaient.
Oui, oui, oui.
Sébastien sur Loire.
Oui, tout à fait.
Non, là, la qualité. Je me suis baigné dans le trou d'Adivac.
Oui, oui.
À l'époque,
moi, je sais pas si vous voyez. Je me suis baigné du côté de Bellevue.
Il y avait un trou, là.
Il y a 40 ans.
Il y a 40 ans aussi.
Non, ce serait pas impossible. C'est interdit d'un point de vue purement réglementaire par arrêté municipal, mais la qualité de l'eau n'est pas trop là l'été, puisque la Loire est basse. Et quand il y a des gros coefficients de marée, le bouchon vaseux, donc la marée, repousse un peu les vases en suspension, ce qui fait que l'eau est très turbide et pas très agréable. Mais dès qu'on monte un petit peu plus haut sur la Loire, en Snie, dans ces coins-là, Oudon, l'eau est très très sympa. On peut tout à fait se baigner sur la Loire en amont. Mais évidemment, la Loire aval est un petit peu plus compliquée. Après, les courants, les tourbillons, la Loire est dangereuse. Bon, il n'y a qu'à prendre un gilet de sauvetage, une bouée canard. Non, mais je veux dire que c'est pas plus dangereux que d'aller en mer. Il y a beaucoup de noyades dans les baïnes de la côte atlantique, des environs de Bordeaux. Notre ami nous en parlera. Mais c'est, voilà, la mer est plus dangereuse que le fleuve. Il faut être prudent. Mais là, c'est plutôt la qualité. Ce ne serait pas très agréable. Mais on peut tendre à chercher à retrouver une qualité d'eau de baignade. Et une piscine sur la Loire, on n'est pas obligé d'être vraiment dans l'eau de Loire. La piscine de l'Igloriette était au départ à découvert. Et si vous retrouvez des vieilles cartes postales des années 60 en couleur, vous voyez une piscine sur laquelle vous êtes quasiment à 20 mètres de la Loire avec une vision sur le port. Et ce serait peut-être plus intéressant, là, d'un point de vue architectural, de reconstruire des piscines comme ça à la pointe de l'île ou ailleurs, à un endroit où on est dans de l'eau de qualité de baignade, mais avec une vision sur le fleuve, quoi.
Ça ouvre le chapitre, qu'est-ce qu'il faudrait reconstruire à Nantes ?
Je vis avec mon temps, donc je regarde ce que font les architectes aujourd'hui. Après, tous les projets de téléphérique ou de pont transborder, moi, je les applaudis, parce que souvent, c'est des beaux projets, ils ont un rapport avec le fleuve, ils sont modernes, c'est nouveau, voilà. Moi, je suis pas nostalgique, hein, je veux pas qu'on fasse les mêmes choses, ça rime à rien. Par contre, pour prendre des bonnes idées, peut-être, oui. Bah, le coup des... Bah, évidemment, les rockshows qui reviennent sous le nom de Navibus, c'est génial. Il faudrait que les dentelles prennent plus souvent, parce que même pour les enfants, c'est...
Oui. Oui. Alain Grandguillot, vous voulez prendre la parole.
Par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est déjà faire un inventaire des quais qu'il faut absolument conserver pour des usages qu'on appelle polyfonctionnels, c'est-à-dire soit peut-être pour du loisir, soit pour du retour du cabotage. Sur le débat qui a eu lieu là... Suite au débat sur la Loire, il y a des demandes d'associations qui œuvrent dans le nautisme, aviron de mer, éducation peut-être à l'eau, qui manque peut-être, qui explique pourquoi il y a eu des Nantais qui n'ont pas pris conscience des enjeux qui se sont tramés après les années 70. Voilà. Je voudrais juste faire une petite remarque sur les images de Nantes et pourquoi il y a eu peut-être beaucoup de photographies. C'est une opinion tout à fait personnelle. Dans les années 70, fin 70, début 80, je ne me souviens plus, il y a une grande exposition au château des Ducs où il y avait beaucoup d'iconographies, c'est-à-dire qui datent du 17e, 18e siècle. Donc il y a quand même une continuité sur les images de la Loire comme fleuve maritime ou fluvial depuis sans doute le XVIIe siècle, je pense. Je pense que c'est important parce que il y a... Comment il s'appelait le photographe qui était rue de la Fosse et Dubuisson ou...
Dupuisson.
Voilà, et, j'avais une discussion avec lui, et souvent on a beaucoup de tableaux qui sont vendus dans des salles de vente où on voit des petits tableaux avec des reproductions de photos ou d'iconographies, sérigraphies, etc. Je pense que c'est peut-être une continuité de cet amour à l'eau et où nous porte l'eau, c'est-à-dire vers l'outre-mer aussi. Je pense qu'il y a eu ce rapport de rêve et d'aventure qui est très fort depuis au moins le XVIIe siècle, peut-être le XVIe siècle.
Ce serait plutôt une Loire touristique qui serait dans les cartons.
Je ne voudrais pas être celui qui dit ce qui est dans les cartons, parce que les cartons sont à faire, à déplier, à sortir, à modifier par nous tous. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je perçois du désir des Nantais qui s'expriment, tout le monde ne s'exprime pas, des Nantais qui s'expriment dans les débats, dans les articles, dans les sondages, sur les réseaux X et Y, c'est très de notre temps. C'est-à-dire que les citoyens, et plutôt les jeunes, enfin jeunes générations, ont envie de retrouver une atmosphère ludique, au sens général du terme.
Stéphane Pageot, auteur de Nantes Histoire d'eau, paru aux éditions d'Orbestier, Philippe Boidron, consultant maritime et fluvial, sont les invités du magazine.
Nous avons perdu le rapport économique au fleuve. Contrairement à si vous allez dans d'autres villes comme Strasbourg, comme Lyon, comme Paris, comme évidemment des villes hollandaises, belges, allemandes, qui ont un rapport au fleuve et au maritime, où ils savent que les denrées arrivent par bateau, qu'elles s'exportent par bateau, que le bateau maritime ou fluvial et les quais et les manutentions sont un élément principal de l'économie. Ce qui n'est pas le cas ici à Nantes, où les Nantais ne savent pas du tout comment s'acheminent les matériaux. Beaucoup d'exportations se font pas par Nantes-Saint-Nazaire, mais par Le Havre. Et beaucoup d'importations sont majoritairement de l'énergie et se font à Montoire, etc. Et donc, dans le port, ils n'ont plus qu'une carte postale. Soit la carte postale historique, soit ce qu'on voit actuellement, qui est un paysage sans bateau, ou avec le maillet braisé, deux roquios, un bateau de temps en temps pour une régate. Enfin, c'est donc la nature ayant horreur du vide, les Nantais anciens, mais de la nouvelle génération, enfin de souche, on va dire, mais de la nouvelle génération, ou des gens qui viennent de l'extérieur découvrir Nantes et s'installer vivre à Nantes, viennent pour une douceur de vivre, des berges où on peut faire un pique-nique, des manifestations culturelles et sympathiques, et un paysage et une qualité de vie, mais pas du tout sur un rapport économique au fleuve. Et y compris aussi un rapport économique de loisirs, c'est-à-dire qu'il y a très très peu, il y en a un peu bien sûr, il y a quelques clubs très forts à Nantes qui font de la voile, de l'aviron, du canoë-kayak, mais qui sont encore que très peu pratiqués, soit par méconnaissance, par peur, etc. Mais il y a, heureusement, il y a les régates de Trente Mouilles, il y a nos amis effectivement de bassin, il y a différentes activités sur l'Erdre et sur la Loire qui permettent de vraiment qu'un citoyen, un gamin d'ailleurs, les futurs Jules Verne, pour moi, seront ceux qui feront du canoë sur la Loire actuellement. Ceux qui construisent un radeau et qui feront des aventures. Et c'est tout à fait possible, au moins sur l'Erdre, parce que c'est peut-être plus tranquille, mais même sur la Loire, de dire, tiens, on va tenter une aventure et trois hommes dans un bateau. Il y a plein de choses à faire. Et tous ceux qui ont lu un peu Jules Verne, Tom Sawyer et autres ont envie d'avoir ce rapport-là. Si le rapport actuellement, c'est d'être juste au bord de l'eau, avec dans un canapé, enfin dans une chaise longue, écouter de la musique et griller une saucisse, pourquoi pas, ça fait partie du jeu. Mais il ne faut pas que ce soit que ça, enfin pour moi. Il faut qu'il y ait une envie, comme le disait Alain Guillot tout de suite, il faut qu'il y ait une envie de monter sur un bateau et d'aller voir ailleurs. Quoi.
L'aventure la plus périlleuse, ce serait d'aller en direction de Laval ou de l'amont de la Loire?
Les deux. Alors on parle souvent des marins d'eau douce, dont je suis fier d'être un des représentants de cette corporation. Tintin et Hergé nous ont évidemment collé cette expression « marins d'eau douce » comme étant évidemment un peu infériorisante vis-à-vis de nos grands frères de l'eau salée. Bien évidemment, l'aventure maritime est une aventure fantastique. On le voit bien avec le Vendée Globe. C'est une aventure humaine, à la fois de rencontre avec des éléments, qui est extrêmement puissant. En même temps, les marins ne sont jamais aussi heureux quand ils sont au large, c'est-à-dire loin de la terre et loin des écueils. Alors que les mariniers, les marins d'eau douce, les bateliers, sont sans arrêt en contact avec les écueils, les écluses, les ponts, les rochers, les bancs de sable, etc. Donc il y a aussi une tradition de qualité et d'aventure fluviale très intéressante. Et la mythologie d'ailleurs de Tom Sawyer et d'autres grands auteurs et d'autres grandes aventures sur le fleuve est intéressante. Donc sur la Loire, c'est actuellement, pour moi, plus aventureux et plus sympathique de remonter le fleuve, voire de le redescendre, mais de redescendre de plus loin, que de descendre sa partie purement estuarienne, qui a plein de côtés très intéressants aussi, mais qui présente moins de risques, moins d'aventures. Mais les deux sont intéressantes, il faut tout faire.
Didier ?
Toujours sur cette question de l'utilité du fleuve, on vit depuis quelques années des étés caniculaires, et j'ai entendu dire que la présence d'un fleuve d'eau dans une ville, ça faisait baisser les températures. Est-ce que le consultant maritime et fluvial que vous êtes, Philippe Boidron, peut répondre à ma question, à mon interrogation ?
Je ne suis pas membre du GIEC quand même. Non, ce qui est sûr, c'est que ça, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est que le fleuve apporte dans les villes de la fraîcheur, de la douceur. Il y a effectivement un échange thermique, un échange de température. Par contre, les fleuves et la Garonne, comme la Loire, commencent à vraiment souffrir d'étiages de plus en plus sévères en été. Ça a toujours été difficile de naviguer la Loire, enfin la Loire au-dessus des ponts de Nantes en été, mais ça l'est de plus en plus. Les étiages sont très sévères. Il y a vraiment une problématique autour de ça qui n'est pas due qu'au réchauffement de la planète, hein, mais bon, il y a une évaporation et une consommation de l'eau qui va en augmentant. Après, le fleuve, oui, apporte de la fraîcheur, que ce, le fleuve ou la rivière ou l'étang, et c'est pour ça aussi que les civilisations ont toujours eu envie, pour des raisons au départ d'alimentation en eau potable, enfin de se rapprocher du fleuve pour boire, pour faire boire les animaux, pour ensuite faire de l'agriculture, pour ensuite faire de l'élevage, etc., de la pêcherie et de la pêche et du transport. Avant de faire des diligences, on a fait des bateaux d'ailleurs. Mais le fleuve, il a aussi quelque chose de très particulier dans le rapport des êtres humains, à mon avis, à la cosmogonie, c'est que rien ne bouge, si ce n'est les étoiles et les fleuves. Quand vous êtes sur la Terre, les montagnes ne bougent pas, ou en tout cas pas à une échelle dont l'homme peut se rendre compte. Par contre, le fleuve bouge sans arrêt, la mer bouge sans arrêt, évidemment, les étoiles bougent à leur rythme. Enfin, l'homme a toujours réussi à observer le développement des astres. Et je trouve que le fleuve, ça c'est intéressant, et les Indiens d'Inde, ils ne sont pas tous hindous, quand ils avaient un des membres de leur collectivité, de leur groupe, du village, qui commençait à dérailler, voire c'est sérieusement dérailler, il l'attachait sur un arbre à regarder le fleuve, au bord du fleuve. Et il venait le rechercher X heures après, ou 24 heures, ou pas très longtemps quand même, et ça l'avait calmé. C'était une thérapie par le fleuve. Je pense qu'effectivement, les Sénégalais ont une citation que je ne connais plus, mais qui est intéressante, je crois, d'attendre au bord du fleuve, de regarder de passer le corps de son ennemi, enfin quelque chose comme ça. Je pense que le rapport au fleuve, ça permet de calmer les choses, si on veut bien le regarder et prendre le temps de le regarder.
Est-ce que c'est pour ça qu'on a construit...
Donc ça rafraîchit les idées.
D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'on a construit l'hôpital Saint-Jacques, justement, en bord de Loire ?
Alors ça, je ne sais pas historiquement, si c'est parce qu'il y avait un terrain disponible, mais peut-être qu'il y a eu une opportunité seulement qui n'a aucun rapport avec le fleuve. Mais toutes les constructions, par contre, d'équipements importants étaient souvent au bord du fleuve parce qu'il fallait l'approvisionner. Hein. Le château, il a été fait à la fois d'un point de vue défensif et d'un point de vue contrôle du trafic du fleuve. Mais tous les châteaux étaient comme ça au bord de l'eau, mais ils étaient aussi là parce que ça permettait tout de suite d'avoir les matériaux, l'énergie, l'économie. Le fleuve, c'était tout, quoi. Il n'y a encore pas très longtemps.
Et pour rejoindre cette idée, j'ai un collègue qui défend cette idée, là, un collègue du Presse-Océan. Pour ne pas le citer, il s'appelle Eric Cabanas, qui défend l'idée que l'esprit des Nantais, avec le flux et le reflux, est différent de l'esprit des Monceaux, par exemple, ou des gens de La Roche-sur-Yon. Il en est vraiment persuadé. Voilà. Et juste la petite anecdote aussi, en 30 ans de balade à Nantes, j'ai vu une seule fois le mascaret, la fameuse mascaret depuis le palais de justice. C'est la petite vague qui remonte, j'ai vu une seule fois. Voilà. J'étais très content parce que j'ai pu faire un vœu. Voilà. Et je sais que dans la Garonne, le mascaret est très, très, très important, tandis qu'à Nantes, c'est une petite vague qui remonte. Qui prend
la Garonne et la Dordogne.
Et la Dordogne, pardon.
La Dordogne, non, mais la Garonne, si vous avez raison.
Merci, messieurs.
Il est temps de...
J'ai pas une...
Alors, 10 secondes.
10 secondes. Qu'est devenue cette fontaine, qui on parle encore d'eau, qui était en bas de la rue de Strasbourg? C'est une enquête que j'en ai déjà parlé à Michel Songer. Il faut mener l'enquête.
La fontaine d'Éric Fontenot, là.
Voilà.
Je pense que l'artiste doit le savoir, puisqu'il a été... contacté tout de suite quand ils ont voulu l'enlever. Donc je pense qu'elle est peut-être tout simplement dans des ateliers à Nantes, dans un coin, ou chez lui, parce qu'il avait...
Qui est celle qui est sur l'emplacement du miroir d'eau.
Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, mais c'est sûr que comme l'artiste étant vivant, la fontaine, lui, sait où elle est, en tout cas, elle n'est pas... En tout cas, si elle a été détruite, elle a été détruite avec son accord.
Messieurs, merci. Juste le temps de remercier Philippe Boidron, Stéphane Pageot, merci Nantes beaucoup, Histoire d'eau. Merci à Didier Houd pour ses contributions. Notre auditeur qui ne voulait pas parler, mais qui a parlé un petit peu, Alain Grand-Guillaume.
Une belle chose.
Oui, c'est bien. Notre auditrice qui restait discrète. Et puis Yann qui assurait la technique.